Bonjour Clara Lecoq-Réal pour les informations.
Bonjour Julie, bonjour à tous. Ils étaient jusque-là pris en charge à hauteur de 15% par l'assurance maladie. Quatre traitements destinés à retarder les effets d'Alzheimer ne sont plus remboursés à partir d'aujourd'hui. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, les juge inefficaces. Elle se base sur certaines études. Mais les associations et des professionnels de santé ne sont pas du tout du même avis. Pour Olivier de la Doucette, notamment professeur en psychiatrie et gériatrie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Cette décision, pour lui, est un obstacle supplémentaire pour les familles de malades.
C'est même une triple peine. La première, c'est qu'on leur explique que les médicaments qu'ils prenaient jusqu'alors étaient inutiles, voire dangereux. La deuxième, c'est qu'on leur dit, si vous voulez continuer, il faudra payer. Et la troisième, c'est qu'on leur propose rien d'autre, ou pas grand-chose, si ce n'est de leur dire que on va essayer des prises en charge non médicamenteuses qui sont très intéressantes. Je vous rappelle que Alzheimer coûte en moyenne 1000 euros par mois et par patient aux familles. Ils n'ont pas besoin de ça, mais vraiment pas. Je pense que la ministre a été mal conseillée, que l'économie qui va être faite d'un côté va en fait coûter très cher par ailleurs, très cher sur le plan humain, et très cher aussi sur le plan de l'organisation de la filière de soins. Alzheimer, aujourd'hui, je vous rappelle, est une maladie qui touche 900 000 personnes, qui impacte grosso modo à peu près 3 millions d'individus dans notre pays, car c'est pas la maladie uniquement d'un individu, mais d'une famille, que c'est une course d'obstacles et que c'est un chemin de croix très difficile. Et on n'a pas besoin d'avoir justement des obstacles supplémentaires sur la route de ces patients et de leur famille.
Olivier de la Doucette, interrogé par Clarence Rodriguez. Les députés ont finalement adopté hier soir le projet de loi sur le droit à l'erreur. Ils l'ont adopté définitivement. Un texte qui permettra d'éviter les sanctions de l'administration en cas d'erreur ou de méconnaissance d'une règle, à condition toujours d'être de bonne foi. Et quelques heures auparavant, hier après-midi, à l'Assemblée aussi, la motion de censure déposée par le groupe Les Républicains avait regroupé 143 voix, 74 voix pour celle de la gauche. Il en fallait au moins 289 pour faire tomber le gouvernement après sa gestion de l'affaire Benalla. Dans l'hémicycle, le Premier ministre Édouard Philippe a dénoncé des motions de blocage. Il a promis de ne pas ralentir le rythme des réformes. Des réformes qui pourraient toutefois pâtir de cette affaire Benalla. Selon le patron du Parti Socialiste, interrogé par Clotilde Ravel, les récentes révélations pourraient au contraire peser sur les débats de l'Assemblée dès la rentrée. Olivier Faure.
Cette affaire ne disparaîtra pas. Pourquoi ? Parce que d'abord le Sénat va continuer à travailler. Là où l'Assemblée n'a pas été autorisée à continuer, le Sénat, lui, va pouvoir se prolonger. Et donc nous irons au bout de cette enquête, je l'espère, parce qu'il y a des révélations chaque jour qui sont faites et qui démentent l'ensemble de l'argumentaire du chef de l'État. Il n'y a pas eu de sanctions, il y a bien eu la volonté de protéger. Et depuis 15 jours, le pouvoir ment et ment encore. Et donc, il y aura une affaire Benalla qui va se poursuivre. Il faudra en tenir compte. Et donc, notamment dans la réforme qui nous est aujourd'hui proposée sur les institutions, comment ne pas voir un prolongement de ce débat-là? Comment ne pas considérer que c'est l'occasion de venir limiter le pouvoir personnel du chef de l'État et faire en sorte que ce pouvoir soit mieux distribué, mieux partagé, notamment avec le Parlement?
Olivier Faure, le patron du PS, qui évoquait la réforme des institutions. Elle devrait revenir à l'Assemblée nationale à la rentrée. Avant cela, dernier jour, ce mercredi de la session extraordinaire, avant une pause estivale pour les députés, trois réformes doivent être votées aujourd'hui sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, le texte asile et immigration, ainsi que le projet de loi avenir professionnel qui regroupe les questions de l'apprentissage, possible jusqu'à 30 ans, de la formation professionnelle et de l'assurance chômage. Le parti au pouvoir au Zimbabwe depuis 1980, la ZANU-PF, obtient la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Les résultats officiels ont été annoncés il y a quelques minutes. C'était le premier scrutin organisé depuis la chute de Robert Mugabe. En revanche, la commission électorale n'a pas encore communiqué sur la présidentielle au Zimbabwe. Elle était organisée lundi également. Et sur ce vote, l'opposition a revendiqué la victoire hier, aussitôt menacée de poursuites par le gouvernement. Au moins 15 personnes ont été tuées hier dans une nouvelle attaque à Jalalabad en Afghanistan. Les trois assaillants ont été tués après plus de 5 heures de combat avec les forces de l'ordre. Attaque qui n'est ce matin toujours pas revendiquée. Un bâtiment gouvernemental était visé à quelques pas d'une école de sages-femmes également touchée le week-end dernier. Cette fois, et c'est certain, par le groupe État islamique. Mais les talibans sont également très actifs en Afghanistan. Nabila Hamel, l'idée est même de les amener à la table des négociations.
L'objectif serait de parvenir à un processus de paix entre les talibans et Kaboul dans ce qui pourrait ensuite aboutir à une alliance contre l'organisation État islamique. Les États-Unis semblent être à la manœuvre, une manœuvre bien discrète pour le moment. Certes, en juin dernier, le secrétaire d'État Mike Pompeo s'est dit prêt à soutenir, faciliter et participer à d'éventuels pourparlers entre le gouvernement afghan et les talibans, puis plus rien, si ce n'est cette révélation du Wall Street Journal et du New York Times. Alice Wells, la sous-secrétaire d'État chargée de l'Asie du Sud et du Centre, a discuté à Doha avec des représentants des talibans. Officiellement, Washington ne laisse rien filtrer de ces premières discussions. Certaines sources précisent qu'elles se sont déroulées en présence de représentants du gouvernement afghan, qu'il a été question de travailler à un cessez-le-feu et au moyen de régler le conflit par le dialogue. Des signaux très positifs ont été enregistrés et d'autres réunions devraient suivre, ajoute la presse américaine. Si Kaboul a confirmé hier la tenue d'une élection présidentielle en avril 2019, précédé en octobre prochain par des législatives. Le pays a besoin de faire baisser le degré de violence, mais la prudence reste de mise car les talibans, qui sont eux-mêmes visés par des attaques de l'EI, ne représentent pas une entité homogène et sont traversés par des luttes de clans. À noter que depuis le début de l'année, 1700 civils ont été tués en Afghanistan, plus de la moitié dans des attaques du groupe État islamique. C'est selon l'ONU le pire bilan depuis 10 ans.
Partons maintenant en Russie, où prend fin aujourd'hui un symbole méconnu de l'époque soviétique. Les horaires des chemins de fer russes seront indiqués à partir d'aujourd'hui en heure locale et non plus à l'heure de Moscou. La fin d'une époque, Léo Vidal.
Et oui, car dans l'immense pays qu'est la Russie, il n'y a pas moins de 11 fuseaux horaires différents, de Kaliningrad au Kamtchatka. Alors, à l'époque de l'URSS, pour simplifier leur gestion, les chemins de fer soviétiques ont pris la coutume d'indiquer tous leurs horaires à l'heure de Moscou. Et le système a continué d'exister ainsi jusqu'à aujourd'hui. Sur les billets de train, mais aussi dans les gares et même à l'intérieur des wagons, quelle que soit l'heure locale, c'est l'heure de Moscou qui fait foi. Par exemple, dans l'extrême-orient russe, l'horloge du train pouvait indiquer 14h alors qu'il faisait nuit noire à l'extérieur. Et dès que vous sortiez de la gare, il devenait d'un seul coup 21h. Finalement, sous la pression des usagers, les chemins de fer russes ont enfin abandonné ce système qui n'arrangeait finalement personne à part eux. Plus de danger donc de manquer son train pour une histoire de fuseau horaire mal compris, ou d'arriver à la gare avec 5 heures d'avance. Mais c'est aussi, hélas, la fin du charme surréaliste de ces conversations entre passagers du même train. Quelle heure est-il ? Mais dans le train ou dans la rue ?
9h08, je vous l'assure, dans le studio de France Culture. Le temps pour moi de vous donner la météo. Un temps chaud ce mercredi, notamment sur l'Est, avec des averses orageuses attendues cet après-midi sur le Nord-Est et en montagne, partout ailleurs de belles éclaircies. Comptez ce matin 19 à 23 degrés sur l'Ouest du pays, 24 à 33 sur la partie Est.